Bien le bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette édition spéciale des amateurs de sport consacrée à l'édition 2020 du repêchage universel de la Ligue nationale de hockey, date à laquelle normalement on procède à la première mise en jeu pour inaugurer un nouveau calendrier dans la Ligue nationale. Preuve que de tenir un repêchage à cette date fait juste confirmer qu'on est vraiment dans le hors norme et ça se poursuit. À mes côtés ce soir, bien sûr, pour parler du repêchage et également de la transaction survenue en fin d'après-midi entre les Blue Jackets de Columbus et le Canadien de Montréal, Max Domi, qui a été échangé aux Blue Jackets en retour de Josh Anderson, le Canadien qui fournit également un troisième choix au repêchage de ce soir pour obtenir les droits sur Anderson. Donc, pour analyser tout ça, toute une équipe rassemblée ce soir dans nos studios et également en mode distanciel. Je pense que vous m'avez compris, j'ai essayé de faire un mot avec distanciation et distanciel.
C'est de la distance, pareil, Mario,
exactement.
C'est correct.
Martin McGuire, bonsoir.
Salut, Mario.
Danny Dubé, de chez lui. Oui, bonsoir, Danny.
Salut, Danny.
Et est-ce que Alain est déjà là, bien installé? Oui, bonsoir, Alain.
Bonsoir, Mario.
Alain Chaney qui est avec nous en direct ce soir.
Salut, Alain.
Salut, Danny. Salut, Martin.
Salut, Alain.
Les gars, juste avant de parler du repêchage comme tel, évidemment que la nouvelle du jour jusqu'à la prochaine, jusqu'à ce qu'on connaisse l'identité du premier choix au total, probablement Alexis Lafrenière, on veut en savoir davantage sur celui qui arrive à Montréal. On connaît Max Domi pour la plupart, on y reviendra. Et je vais demander dans un premier temps à Danny et Alain. Danny, d'abord, quel souvenir as-tu des derniers matchs que tu as vu Anderson jouer, gars de 6 pieds 3? Droitier, comment peut-il venir aider le Canadien sur quel trio, par exemple?
Déjà, contre le Canadien, c'est un joueur qui avait... on sentait sa présence sur la glace. C'est un bon patineur, fluide. C'est un gros gabarit. C'est un gars qui va au filet. C'est pas un marqueur naturel. C'est un gars d'une vingtaine de buts, mais qui va dans les zones chaudes, qui est dérangeant. Donc, Canadien, c'était une équipe qui avait de la difficulté à maîtriser les gros gabarits. Et il y a eu quand même un certain succès lors de ses apparitions contre le Canadien de Montréal. Je pense que ça a peut-être eu à voir avec la décision du Canadien, malgré son statut. Il n'y a pas juste ça, là. Il doit quand même séduire l'organisation. Puis je pense que ça a pesé dans la balance.
Alain, quel souvenir gardes-tu de Josh Anderson, celui que tu as vu à l'œuvre, mais sans doute peut-être celui que tu avais épié avant qu'il ne devienne un joueur de la Ligue nationale?
Oui, absolument, Mario. Dans les rangs juniors avec les Knights de London. Écoute, Danny vient de le mentionner, c'est un gros bonhomme, à 6 pieds 3, 220 livres, mais c'est un très bon patineur pour son gabarit. C'est ce que les gens peut-être ne semblent peut-être pas savoir, mais Josh Anderson est très efficace également en échec avant en raison de sa rapidité. Il peut se rendre facilement, mettre de la pression sur les défenseurs adverses. Et comme Danny le mentionnait, très efficace également à amener la rondelle au filet. Et c'est un joueur déterminé, c'est un joueur de caractère, qui a beaucoup de fougue également. Alors, je pense que les partisans du Canadien vont l'adorer. Et en ce qui concerne cette transaction-là, Mario, là, je crois qu'on a enlevé un caillou dans un des souliers du Canadien de Montréal en échangeant Max Domi.
C'est un secret de
polichinelle. Un soulier Claude.
Exactement. Martin, toi aussi, évidemment, tu as décrit plusieurs affrontements entre Columbus et le Canadien de Montréal. Et au-delà de ça, tu as fait quelques téléphones aujourd'hui pour aller chercher davantage d'informations sur le nouvel ailier acquis par Marc Bergevin aujourd'hui.
D'abord, c'est une sorte de joueur que le Canadien n'avait pas beaucoup. Ça, faut le mentionner. Armia est un gars qui a un bon gabarit, mais Armia, il protège la rondelle. L'autre aime aller frapper, puis aime aller sortir la rondelle dans un coin où ça pourrait faire mal d'aller la sortir. Alors, c'est un gros bonhomme, puis le Canadien n'avait pas ce genre de joueur-là. Quand j'ai fait ma petite enquête là-bas à Columbus pour savoir quelle était la situation de Josh Anderson, on m'a dit, dans le fond, que on a échangé deux joueurs malheureux, contractuellement parlant. On les a échangés de ville. Josh Anderson n'est pas un joueur qui fait énormément de bruit. C'est un gars assez calme. C'est pas un gars qui court les caméras et les entrevues. C'est un gars qui est discret. Mais on m'a dit qu'il était quand même pas très heureux de la tournure des événements sur le plan contractuel. Est-ce qu'on lui avait fait miroiter des choses? Est-ce qu'on lui avait dit, écoute, c'est vers ce quoi on s'en va avec toi? Et là, ben, le ce vers quoi on s'en va avec toi semblait pas arriver. Et là, lui, il a eu la blessure, on le sait. Il a passé une bonne partie de la dernière saison à refaire ses forces, à retravailler son épaule. Soit dit en passant, là, si les Blue Jackets de Columbus étaient allés en deuxième ronde, il était prêt à jouer. Il était dans la bulle, il s'entraînait, il frappait et tout ça. Mais ce qu'on me dit de lui, c'est que il va accueillir la transaction positivement parce qu'il sentait à Columbus qu'il arrivait dans une espèce de cul-de-sac. exactement ce que Max Domi sentait à Montréal depuis que Suzuki lui avait en quelque sorte arraché son temps de glace de joueur de centre. Alors, je dis pas qu'on s'est échangé des problèmes, mais on s'est échangé des joueurs qui, dans leurs anciennes équipes, pas plus tard que ce matin, vivaient des moments où ils avaient l'impression d'être bouchonnés à quelque part.
Et dans le cas de Josh Anderson, sa meilleure saison en carrière, eh bien, il a marqué 27 buts. C'est pas la dernière où il n'a joué que 26 matchs en raison de sa fameuse blessure à l'épaule. 27 buts, 20 mentions d'aide pour 47 points. On se demande, quand on parle d'un gaillard de 6 pieds 3 et de 220 quelques livres qui va amener de la robustesse. Bon, si vous regardez dans la colonne des minutes de pénalité, c'est pas là que vous allez voir que c'est un, comment dirais-je, pas un Tom Wilson.
C'est pas un bagarreur.
De ce côté-là. Cependant, son ratio de mise en échec est intéressant à 602 mises en échec en 267 parties. On dit, et tu le disais, je pense pas que tu as eu le temps de le dire en ondes, l'année qu'il a marqué 27 buts, je pense qu'un de tes informateurs te disait que s'il avait eu des mains, il n'aurait marqué 40.
Ben, donc, c'est ça. Exactement.
Donc, c'est pas un naturel, mais qui va dans les zones dangereuses. Danny, est-ce que c'est encore le souvenir que tu as de lui? Anderson, c'est devant du filet, là, par exemple?
Alain, tout à l'heure, Alain a mentionné des éléments extrêmement importants, là. C'est que c'est un gros joueur qui patine bien, qui est rapide, et il y a un changement de vitesse. Il est capable, tu sais, vraiment, là, il est puissant. Donc, il va faire 2-3 enjambées pour arriver sur la rondelle. Il va amener une dimension de pression sur la défensive adverse qui va déranger l'adversaire. Tu sais, c'est bien quand Tatar arrive dans le coin de patinoire ou Dano arrive dans le coin de patinoire parce que c'est des joueurs qui ont des bons bâtons, qui vont intercepter des passes et tout ça. Mais ils déstabilisent pas mentalement, là, psychologiquement. Ils vont pas déranger l'adversaire. Anderson en santé, puis heureux, je pense qu'il va faire ça de façon régulière dans un match. Et ça, je pense que le Canadien n'avait pas cette dimension-là.
Où le vois-tu dans un alignement, en tout cas avec l'alignement qu'on connaît à Montréal, Alain?
Écoute, je pense qu'on a toute la chance possible à Anderson de pouvoir connaître du succès avec le Canadien. Peut-être un deuxième trio avec Drouin à gauche ainsi que Suzuki au centre et lui, justement, à l'aile droite. Ça serait vraiment intéressant de le voir là pour qu'il puisse au moins connaître un certain succès. Ouais. Et on sait que Columbus également était vraiment utilisé, et ça très souvent, en désavantage numérique. On peut s'imaginer un duo à Armia et lui à désavantage numérique. Là. Ils ont quand même des assez bonnes mains, des gars qui patinent très, très bien. Mais Anderson, il y a plusieurs bonnes qualités qui vont venir avec le Canadien de Montréal. Mais moi, je suis convaincu que le Canadien va lui donner la chance d'évoluer sur un trio qui puisse connaître du succès.
Écoute, Alain, excuse-moi, je veux juste savoir, Alain, penses-tu qu'il peut jouer devant le filet? T'sais, parce que, bon, c'est pas nécessairement ce qu'on lui a demandé avec Columbus, mais penses-tu que c'est un gars avec le gabarit qu'il possède qui peut aller dans cette zone-là puis être l'espèce d'écran dans le gardien?
Oui, absolument. En avantage numérique, par exemple, Danny, écoute, c'est un gros bonhomme qui prend de la place devant le filet adverse. Je le vois très bien dans cette situation et je suis convaincu qu'on va essayer cette chose-là avec lui parce que, écoute, les dimensions qu'il peut amener, le Canadien manquait. On manquait de grosseur, on manquait de l'attaquant de puissance qu'on recherchait depuis longtemps, mais là, on l'a obtenu puis ça n'a pas coûté tellement cher. Et c'est là la raison à plusieurs choix de repêchage. On s'est servi d'un choix de troisième tour pour obtenir ses services, mais on regarde quand même trois choix de deuxième tour. C'est extraordinaire.
Là-bas à Columbus, qu'on disait, messieurs, pour appuyer sur ce que Alain et Danny disaient sur le plan technique avec son patinage, on disait de Anderson, c'est un Tom Wilson qui ne jette pas ses gants. C'est-à-dire que c'est un gars physique, il donne des mises en échec et il est assez bon pour patiner avec les bons joueurs offensifs de son équipe. Mais à la différence de Wilson, c'est que il finira pas l'année avec 35 combats, là, puis c'est pas sa tasse de thé. Mais il y a une partie de la game de Wilson qu'il est capable d'amener à son équipe.
Laissez-moi, ou je vais me permettre, messieurs, de ramener ce changement, cet échange-là, là, mettre ça en perspective avec ce que Marc Bergevin va tenter de faire ce soir. Parce que cette transaction-là, on disait, par exemple, qu'il devra se départir d'un joueur pour se créer une marge de manœuvre salariale pour peut-être être actif plus tard cette semaine, pour aller chercher un joueur autonome ou encore accueillir quelqu'un dans une transaction ce soir qui gagnerait un salaire considérable. Or, on échange Domi, mais on va chercher un gars qu'on va tenter de mettre sous contrat. Peut-être un salaire moindre au plan annuel que Domi. C'est un gars qui n'a jamais connu une saison de 72 points et il y a un point d'interrogation par rapport à ce qu'il pourra faire à la suite de cette blessure à l'épaule. Mais donc, si Marc Bergevin a encore en tête d'améliorer son équipe dans l'immédiat, les gars, je pense que, à moins que ça soit juste par les choix de repêchage, soit des déjà repêchés à la Caulfield ou Romanov ou avec son 16e rang ce soir en première ronde, ou bien ils songent à se départir d'un autre joueur pour aller chercher de la marge de manœuvre financière. Les gars, un commentaire chacun là-dessus, Martin?
Ben, moi, je pense que s'il y a d'autres choses qui arrivent, là, et qui arrivent, et, c'est-à-dire qui amèneraient un joueur quand même d'un impact certain avec le Canadien, il faut qu'il en sorte un en bon québécois. S'il en rentre un autre, il faut qu'il en sorte un.
Ben, je pense qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre. Là. Il y a des joueurs qui peuvent facilement quitter l'organisation du Canadien de Montréal, alléger la masse salariale et pas déstabiliser cette organisation-là.
Tu penses à qui, Danny? Est-ce que tu
peux
mettre
des noms
là-dessus?
Je pense à Victor Mété, je pense à Lekkonen qu'on aime bien, mais qui, pour moi, offensivement, qui génère pas grand-chose avec l'arrivée d'Anderson et tout ça. Tu regardes, tu commences à faire le mettre en place les pièces du puzzle, tu te dis... Écoute, je te dis pas que j'aime pas ce joueur-là. J'apprécie ses qualités, son ardeur au travail, etc.
Mais
est-ce que
faire
tu peux
de la
pas
place.
Et à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions. Ben, il faut que tu sois rationnel. Il faut que tu élimines les émotions. Tu dis, je regarde ça froidement. Moi, je pense que Lekkonen, c'est un joueur qui va intéresser certaines équipes, qui pourrait facilement changer d'adresse, ainsi que Mété.
Alors, on viendrait de récupérer quelque chose comme 3,4, 3,5 millions de dollars si on procédait ainsi. Alain, sur le même sujet.
Oui, moi, je crois qu'on cherchait un attaquant de puissance, un top 6, et je crois que c'est Anderson qu'on visait. Je ne crois pas que Marc Bergevin va faire de transactions majeures par la suite pour impliquer beaucoup d'argent dans sa masse salariale. On sait qu'il paie bientôt Philippe Dano, et Kotkaniemi va passer à la banque, ainsi que Suzuki éventuellement. Donc, il faut qu'il garde quand même des sous pour réussir à payer ces joueurs-là. Mais je crois que le joueur visé était Anderson. On l'a eu à bon prix quand même, et celui-ci, il va aussi connaître une très bonne saison pour justement pouvoir avoir un bon contrat la saison prochaine avec les Canadiens de Montréal. Mais je ne crois pas que le Canadien va faire de grandes transactions pour aller chercher des Taylor Hall et compagnie. D'accord avec Danny, cependant, Victor Mété est peut-être un joueur qu'on pourra se départir éventuellement, ainsi que, bon, écoute, peut-être Lekkonen, comme Danny vient de mentionner. C'est des joueurs qu'on peut remplacer, mais on parle d'un troisième trio du Canadien de Montréal, possiblement avec Lekkonen, Kotkaniemi et Armia. Ce serait quand même très, très bon également, là.
Très intéressant, en effet. Et donc, il faudra négocier avec lui. Je ne sais pas si on le fera rapidement. C'est la coutume d'une équipe qui accueille un nouveau joueur de s'entendre assez rapidement avec lui. Même chose pour Max Domi du côté de Columbus, qui va peut-être se trouver des intérêts en commun avec son nouvel entraîneur, John Tortorella.
En tout cas, son nouveau directeur général, il n'a vraiment pas pris de chance parce qu'il l'a fait écrire sur le communiqué. Nous avions besoin d'un joueur de centre et Max va jouer au centre. Alors, juste ça, là, ça va peut-être replacer notre Domi sur un nuage comme il était quand il est arrivé à Montréal.
Je veux juste dire que Jonathan Drouin joue à Lille.
Comment t'as dit ça, Danny? Il est en train de s'étouffer. Comment t'as dit ça, Danny?
Je veux dire que Drouin joue à Lille.
Oui. Écoute, est-ce qu'il y a encore un questionnement ou un débat
non,
autour de ça?
Non, parce que quand il a été amené à Montréal,
oui, t'as raison,
il a joué au centre.
Non, non, ça c'est clair. Mais
je veux juste dire que ce qu'on dit puis ce qu'on fait, des fois, on pense que ça va marcher puis ça marchera pas. Fait que, mais on change les plans.
Alain, si tu dis vrai par rapport au fait que tu ne crois pas que Marc Bergevin va transiger là, dans ce soir ou dans les prochains jours, ça voudrait dire que donc on va exercer le choix de repêchage au 16e rang de la ronde d'aujourd'hui. Juste avant d'aller à la pause, les gars. Donc, vous attendez-vous à ce que le Canadien repêche ou qu'il se passe autre chose d'ici à ce que ça soit le tour du Canadien?
Moi, je pense qu'ils vont repêcher parce qu'à 16, le joueur 12 sur leur liste, ils vont l'obtenir, selon moi.
Danny?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Alain. Puis en plus, je dirais que cette année, on le dit depuis le début, c'est une année où il y a beaucoup, beaucoup de talent. Il y a de la profondeur dans le repêchage. Donc, le joueur à la position 16 est comme... Pour eux, c'est peut-être un joueur qui est 12-10. Donc, c'est un bon joueur. C'est un joueur qu'il convoite vraiment.
Martin?
Moi, hier, la perception que j'ai eue de autant le directeur général que le recruteur-chef lors du point de presse, il y avait le non-verbal, il y avait tout là-dedans, il y avait quelques mots ici et là. Moi, messieurs, je pense qu'effectivement, on va écouter jusqu'à ce que Gary Bettman donne la parole aux Canadiens. Je suis pas en train de dire qu'ils repêcheront pas, mais je pense qu'ils vont écouter jusqu'à la dernière seconde.
C'est quoi, 3 minutes qu'ils ont? C'est combien
à peu
de temps
près.
Qu'ils ont?
Ouais. Ils peuvent demander un temps d'arrêt, là, si le téléphone de Marc Bergevin se met à vibrer. Ils peuvent avoir un temps d'arrêt, mais je pense qu'on va écouter jusqu'à la dernière seconde parce que on a amélioré l'équipe sans que ça coûte le premier choix. Alors, si on peut vraiment, vraiment améliorer l'équipe avec le premier choix puis autre chose, on va peut-être être encore très à l'écoute, d'après moi.
Marc Bergevin qui a donc cédé Max Domi accompagné d'un choix de troisième ronde au repêchage 2020 de ce soir, en retour de Josh Anderson. Et le Canadien qui donc a toujours son 16e choix ou le 16e rang de la première ronde ce soir. Et si on remonte dans les dernières années, dans les récentes années, bon, évidemment que 2020, on va savoir c'est qui ce soir. 2019, le gars choisi au 16e rang, première ronde, n'a pas joué dans la Ligue nationale. 2017 non plus. En 2016, choisi au 16e rang, Jacob Chychrun, qui a joué 234 parties à venir jusqu'à maintenant en saison régulière dans la Ligue nationale. 2015, au 16e rang.
Avec l'Arizona.
Matthew Barzal, qui a été repêché comme quoi. Puis je pourrais faire bien d'autres années en retournant dans le passé, mais c'est des exemples assez récents qui nous confirment et qui prouvent qu'on peut mettre la main sur des joueurs de qualité à ce rang-là. En compagnie d'Alain Chesnais, ancien recruteur des Ducks d'Anaheim, des Nordiques de Québec, que vous avez connu dans les dernières années comme analyste à TVA, Danny Dubé avec nous et Martin McGuire. Martin, ce soir, une grosse partie de ton mandat, ce sera d'être en contact avec les gens. Explique-nous un petit peu comment c'est organisé au niveau technologique. On a, nous, l'alimentation audio. Oui. Donc, à partir de 19h, c'est comme si on entrait dans la salle. Nous aurons le son directement de la salle de contrôle de la Ligue nationale. Et ensuite,
Les équipes sont réunies dans leur quartier. Le Canadien est dans son vestiaire au Centre Bell. Il y a aussi une autre pièce adjacente qui a été réquisitionnée pour quelques recruteurs. Mais quand vous aurez, entre autres, les images virtuelles du Canadien, Marc Bergevin, Trevor Timmons et sa garde rapprochée, là, probablement John Stedwick, le directeur général adjoint, là, ils seront assis dans le vestiaire. Alors, je pense
avec des masques, en tout cas, si tous se comportent comme les Rangers de New York.
Avec
là,
des masques au visage.
On vient de voir des images des Rangers, de la salle de War Room des Rangers. Tout le monde avait des masques.
En fait, là, c'est que pour donner un beau coup d'œil, parce que on fait aussi de la télé là-dedans, là, je pense que l'idée d'aller dans les vestiaires était intéressante parce que là, si on a accroché des chandails puis on a décoré à place un petit peu, ça a l'air moins fou. Les prospects seront à la maison. J'ai vu quelques tests tout à l'heure. Là, j'ai vu le jeune Byfield, Perfetti. Ils sont assis à un bureau. Ils sont devant leur ordinateur. Là. Alors, quand on va voir et entendre les prospects, ils seront en direct de la maison. Puis, dans beaucoup d'endroits, ils n'auront pas beaucoup de monde autour d'eux parce qu'il y a des restrictions, bien sûr. Je pense au Québec, là, les jeunes comme Lapierre, Bourque et aussi Lafrenière, ça va être vraiment le petit clan, là, la petite famille et c'est tout.
Bien sûr, et je vais ajouter à tout ça que tous les joueurs susceptibles d'être repêchés en première ronde ont reçu une boîte avec des casquettes à l'effigie de chaque équipe. Donc, ils vont porter la casquette de l'équipe qui les aura repêchés et on présume que ceux qui seront pressentis dans les premiers...
Tu vends de garage, Denis.
Je pense qu'il pourra en donner à la famille ou au hockey mineur de là où il a grandi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ou peut-être qu'on pourra tout simplement retourner des commandes.
Non, mais tu sais, sur eBay, là, une casquette du Canadien signée par Alexis Lafrenière, ça pourrait prendre la valeur.
Ça pourrait être intéressant.
Bon point.
Et il y aura aussi des chandails des différentes équipes pour les tout premiers choix de repêchage. Alain, tu es celui d'entre nous. Évidemment que Martin et Danny ont plusieurs repêchages à leur actif décrits et analysés en direct, mais toi, tu as eu le plaisir d'accueillir des joueurs sur l'estrade après avoir prononcé leur nom. Tu sais, on a déjà parlé de choix où tu n'étais pas d'accord, mais je veux dire, le plus beau moment, la plus grande fierté d'avoir repêché quelqu'un, de l'accueillir sur l'estrade. As-tu un souvenir en tête là, par rapport à la fierté d'une sélection que tu as déjà faite?
Eh bien, le plus beau souvenir, c'est en 2003, lorsqu'on avait eu la chance de repêcher Ron Getzlaff et Corey Perry au premier tour. Donc, on a eu la chance de récupérer deux joueurs qui ont fait partie, si tu veux, nous ont permis un peu plus tard, soit en 2007, de gagner la Coupe Stanley. C'est deux joueurs absolument phénoménales pour nous. Et ça a changé l'image un peu des Ducks d'Anaheim, qui sont devenus une équipe quand même avec beaucoup plus de dynamisme par la suite. Là. Donc, c'était un repêchage que je me souviendrai toute ma vie. Un des meilleurs, sans doute, que j'ai pu assister, parce qu'en 2003, il y avait tellement de bons joueurs disponibles. Et puis, d'avoir réussi à mettre la main sur ces deux joueurs-là, ça fait extraordinaire là, pour toute l'organisation.
Je reviens sur la fameuse poignée de main, Alain, puis le regard dans les yeux. On arrête. J'entends ces histoires-là à chaque année. Puis en même temps, on est dans un domaine, on est en 2020, les statistiques avancées dominent, on a la vitesse de patinage, on peut les chronométrer, on peut chronométrer leurs tirs, etc. Jusqu'à quel point c'est du folklore, le regard, le feu dans les yeux et la poignée de main, ou c'est encore quelque chose qui parle?
mais c'est quelque chose qui parle encore. Il n'y a pas un pourcentage accroché à ça, cependant. Mario peut te dire ça correspond à 30%. Absolument pas. C'est quand même assez subjectif comme tel. Une poignée de main, ben regarde dans les yeux, là. Ça transmet pas toujours la vraie chose, si tu veux. Mais il reste quand même que tu vois un jeune joueur, ça te permet de pouvoir voir subjectivement un petit peu son attitude, son désir, sa détermination et sa fougue également. Mais on peut se faire tromper par ça aussi. Donc, faut en prendre et en laisser, bien entendu. Et les statistiques avancées ou les statistiques fines qu'on peut appeler également, bien, c'est un outil supplémentaire pour, lorsqu'il arrive, c'est très serré entre deux joueurs lors des rencontres des recruteurs, mais ça peut déterminer justement lequel des deux qui va passer en avant de l'autre, à savoir, c'est une statistique importante. Dans mon temps, c'était beaucoup moins utilisé. Ça l'est beaucoup plus maintenant. Et j'y crois cependant, mais de dire que ça fait foi de tout, absolument pas. Il faut que tu vois évoluer le joueur, tout regarder son langage corporel également, comment il se déplace à patinoire, qu'est-ce qu'il fait quand il n'a pas possession de la rondelle. Il y a beaucoup de facteurs que les recruteurs soient présents pour analyser ces gestes-là, pour avoir la meilleure précision possible au niveau justement du joueur qu'ils ont à évaluer, à regarder.
La tendance malheureuse qu'on a, c'est les grandes recettes magiques, les généralisations. On pense que les statistiques vont nous donner toutes les réponses. Les statistiques, c'est fait pour valider des choses que tu as déjà évaluées. Les statistiques, ça vient appuyer des choses que toi, tu veux vraiment valider une affaire que tu dis, j'essaie d'avoir plus d'informations sur un joueur que j'aime, sur un joueur que je vois dans mon affaire, dans ma soupe ou dans ma photo de famille, là, quand on regarde une équipe. Mais pas le contraire. Quand tu mets les statistiques en avant de ton jugement, c'est parce que tu sais pas trop où tu t'en vas.
On est en compagnie de Danny Dubé, que vous venez d'entendre, Alain Chesnay, qui est notre recruteur maison ce soir au 98.5. On va permettre à toutes les stations du réseau de s'arrimer avec nous. On fait la pause et au retour, eh bien, on brise la glace. C'est la séance de repêchage 2020 de la Ligue nationale de hockey.